en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le 8 février 2010, l'académicien Bertrand Collomb a présenté une communication en séance devant ses confrères de l'Académie des sciences morales et politiques intitulée « La démocratie dans l'entreprise ». L'entreprise, institution de base de l'économie libérale, est un champ où les principes d'une organisation démocratique ne sont guère reconnus, qu'il s'agisse d'une démocratie des travailleurs ou d'une démocratie des actionnaires. Ainsi commence la communication de Bertrand Collomb qui se propose d'étudier la question sous ces deux aspects. Retrouvons Bertrand Collomb en salle des séances.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, le siècle des Lumières a été l'origine des droits de l'homme, de la démocratie et des principes de l'économie libérale. En affirmant le droit de propriété, malgré les controverses sur son origine parfois contestable, il a permis que la liberté d'entreprendre soit à la base de l'organisation économique. Pourtant, quelques siècles plus tard, l'entreprise, institution de base de l'économie libérale, est un champ où les principes d'une organisation démocratique ne sont guère reconnus, qu'il s'agisse d'une démocratie des travailleurs ou d'une démocratie des actionnaires. Je me propose d'examiner la question sous ces deux aspects, et nous verrons ainsi que si la question de la démocratie dans l'entreprise n'a guère cessé d'être posée, elle s'est heurtée aux réalités mêmes et n'a trouvé que des réalisations très partielles, souvent éphémères. Et que si la démocratie actionnariale est actuellement à la mode, sa véritable mise en œuvre poserait des problèmes redoutables. Alors notre histoire commence après la dissolution des corporations, qui avaient été chargées, dans un mode d'autorégulation sanctionné par la puissance publique, d'organiser les différentes professions. Elles sont supprimées par la Révolution, à la fois parce qu'elles restreignent la liberté individuelle à l'intérieur des différents métiers, avec des règles parfois tatillonnes et souvent peu adaptées à l'évolution des techniques, mais aussi parce qu'elles limitent la concurrence et sont donc préjudiciables à l'intérêt des consommateurs. Dans le même temps, l'évolution technologique et économique va créer des nouvelles activités différentes des catégories artisanales et commerciales relativement stables que l'on avait connues, car la révolution industrielle s'annonce à l'aube du XIXe siècle. Le nouvel entrepreneur se trouve donc libéré des règles qui codifiaient minutieusement les rapports entre les patrons et les compagnons ou les apprentis. Il va décider lui-même comment traiter ses ouvriers, à qui la constitution de syndicats sera interdite pendant près d'un siècle. Il en résultera des situations assez diverses. Les meilleurs entrepreneurs s'organiseront par référence à un modèle familial. Le chef d'entreprise sera le pater familias, dont l'autorité ne se discute pas, mais qui se sent responsable de ceux qu'il emploie. Ce modèle paternaliste est par exemple celui que développera la famille Pavin de Lafarge autour des années 1850. D'autres, au contraire, utiliseront leur liberté et leur droit de propriété sur l'entreprise sans beaucoup de scrupules vis-à-vis de leurs employés. Et les scénarios à la Dickens seront certainement assez nombreux, en Grande-Bretagne ou dans d'autres pays. Vis-à-vis des investisseurs, la situation de l'entrepreneur est également très forte. La pratique de la commandite, et notamment la commandite par action, qui sera la forme principale de développement des entreprises jusqu'en 1867, rend le commandité responsable sur l'ensemble de ses biens, certes, mais ne donne pas au commanditaire le droit d'intervenir dans la gestion de l'entreprise. C'est donc un entrepreneur pratiquement tout-puissant qui va s'affirmer au début de la révolution industrielle, alors que les salariés, notamment les ouvriers, se trouvent dans une situation de dépendance et parfois même de dénuement matériel. Dans la même période, l'affirmation des principes démocratiques dans l'univers politique connaîtra en pratique bien des vicissitudes, mais ils finiront par triompher à peu près partout en Europe après les révolutions de 1848 et en France après la chute du Second Empire. Face à cette déconnexion entre un monde politique marqué par le développement de la démocratie et un monde économique resté autocratique, des réactions différentes se manifesteront. Les uns, comme Marx, verront dans l'appropriation privée des moyens de production, voire dans le droit de propriété tout court, le fondement d'une injustice inacceptable. Cette approche débouchera sur la nationalisation de l'entreprise, mais comme l'histoire le montrera dans l'expérience soviétique ou dans les expériences socialistes tentées ici ou là, elle ne résoudra aucunement la question du déficit démocratique de l'entreprise et n'accroîtra pas le rôle de son personnel dans sa gestion. Plus tard, on y reviendra, l'expérience de l'autogestion yougoslave tentera de traiter ce problème, mais sans grand succès. D'autres, au contraire, ne chercheront pas à modifier le mode de direction de l'entreprise, mais voudront changer les rapports de force entre les travailleurs et les entreprises par l'organisation de syndicats forts. Il ne s'agit pas là d'aménager l'exercice du pouvoir dans l'entreprise, mais d'opposer au pouvoir de l'entrepreneur un pouvoir extérieur qui vient conforter les travailleurs de l'entreprise. Alors notre propos n'est pas ici de retracer l'histoire du mouvement syndical, mais on peut noter seulement que pour l'essentiel, et notamment dans les pays anglo-saxons, le mouvement syndical ne revendique pas une plus grande participation aux décisions de l'entreprise, mais organise un contre-pouvoir qui en limite les effets. Mais certains répugneront quand même à créer une opposition systématique entre l'entreprise et ses employés et voudront supprimer l'aliénation des travailleurs dénoncée par Marx tout en restant dans le cadre de la propriété privée des moyens de production. C'est tout l'effort du mouvement coopératif ou associatif, comme il a été diversement appelé. En France, après la révolution de 1848, alors que les coalitions sont encore interdites, nombreux sont les efforts pour essayer d'améliorer la condition ouvrière. La promesse d'un, je cite, « droit au travail avec un salaire suffisant » ne sera pas ratifiée par l'Assemblée nationale, mais un crédit sera voté pour encourager les associations ouvrières. L'Empire, dans sa période libérale, favorisera les sociétés de secours mutuel, forme d'entraide à laquelle il voudra donner une forme quasi-étatique, avec des sociétés reconnues, dont le président est nommé par l'empereur et qui reçoivent des subventions. Mais sont aussi apparues, en France et dans les autres pays européens, des associations ouvrières qui regroupent des ouvriers pour les rendre moins dépendants des patrons. Elles prendront surtout en Angleterre la forme de coopératives de consommation, avec l'expérience fameuse des tisserands de Rochdale, et en Allemagne, celle des sociétés de crédit mutuel, avec le réseau constitué par Schulz-Delitzsch. En France, où Proudhon a développé en 1857 un modèle de société ouvrière, on verra apparaître des sociétés coopératives de production, par exemple dans la mécanique ou les tissages, appuyées sur des sociétés de crédit mutuel, et notamment le Crédit au Travail, créé en 1863, qui connut un certain développement avant de capoter en 1868. Ça n'avait pas duré donc très longtemps. Pourtant, dès 1849, notre confrère de l'époque, Louis-René Villermé, bien connu pour son tableau de l'état physique et moral des ouvriers de 1840, exprimait son scepticisme en expliquant que de telles sociétés ouvrières auraient beaucoup de mal à disposer d'un capital suffisant pour investir et pour amortir des pertes conjoncturelles. Il concluait, je cite, « La très grande masse ne gagnera rien à l'association », fin de citation, tout en admettant qu'il y eut des exceptions. Un autre contemporain, Paul-Hubert Valraux, témoigne que, je cite, « L'incapacité des gérants et l'insubordination des sociétaires sont les deux causes les plus actives de la chute des associations », fin de citation. La question des associations et la recherche d'une solution non révolutionnaire à la question sociale sera un des thèmes récurrents des congrès ouvriers, jusqu'à ce que le congrès de Marseille de 1879 fasse le choix du collectivisme révolutionnaire. Mais le sujet restera encore à l'ordre du jour des mouvements ouvriers chrétiens, après que l'encyclique Rerum Novarum de 1891 ait exprimé l'opposition de l'Église à un capitalisme qui donne à l'argent la prédominance absolue sur le travail, mais également son opposition au socialisme. La loi de 1898 va donner un cadre à un mouvement coopératif qui, malgré de nombreux échecs, se développera et a de nos jours une certaine importance économique. Les mutuelles d'assurance ont en France 21 millions d'assurés membres et représentent 53% du marché de l'assurance automobile. Les banques mutualistes, qui légalement appartiennent au secteur coopératif, parmi lesquelles le réseau du crédit agricole et le réseau du crédit populaire, drainent 60% de l'épargne en France et accordent 40% des crédits. Enfin, les coopératives de production emploient en France 40 000 salariés, ce qui n'est évidemment pas beaucoup, mais plus de 800 000 en Espagne et près de 100 000 en Italie. La plus importante coopérative de production est la société basque espagnole Mondragon, la septième entreprise espagnole avec près de 100 000 employés, dont plus des deux tiers sont membres de la coopérative, et 260 filiales. On trouve sur son site internet une annonce qui n'a pas fait les gros titres de la presse, mais qui témoigne de la vitalité du concept. La conclusion, en novembre 2009, d'un accord avec le grand syndicat américain des Steelworkers pour, je cite, un partenariat historique en vue de créer ou d'acheter des entreprises industrielles aux États-Unis et au Canada qui combineront la structure démocratique Mondragon de propriété et de gouvernance avec la négociation collective. Novembre 2009. Ces différentes formes de coopératives ont un intérêt différent pour ce qui concerne notre thème de la démocratie. Les mutuelles d'assurance ou de banque sont des coopérations entre clients actionnaires et non entre employés. Elles fonctionnent selon le principe démocratique « un homme, une voix », indépendamment de la part de chacun au capital. Mais lorsqu'elles atteignent une certaine taille, leur système démocratique devient largement formel, avec des assemblées peu fréquentées et des votes unanimes pour une liste de candidats administrateurs uniques. Beaucoup d'entre vous sont sans doute membres d'une mutuelle, mais sans vous sentir vraiment partie prenante à la gestion de celle-ci. Et dans les pays comme l'Australie ou les États-Unis, où la démutualisation est juridiquement assez facile, les associés ont souvent cédé, au cours des dernières années, aux sirènes des sociétés d'assurance capitalistes comme AXA, elles-mêmes originellement mutualistes, qui leur proposaient le rachat à bon prix de leur part, capital imprévu et non valorisable dans les règlements de la mutuelle. On doit cependant reconnaître que même s'il ne s'agit pas d'une véritable démocratie, la culture de ces entreprises, comme par exemple le groupe du Crédit Agricole, est marquée par son statut coopératif et que l'exercice du pouvoir y est différent de celui des entreprises traditionnelles. Alors les coopératives de production comme Mondragon sont, elles, une vraie forme originale de démocratie dans l'entreprise. Leur caractère exceptionnel et le fait que la plupart n'aient pas survécu montrent que les arguments de Villermé étaient sans doute justifiés et qu'il n'est pas facile d'envisager un développement important et durable d'une entreprise vraiment démocratique. Mais on peut noter que Essilor, le leader français des verres correcteurs, a été originellement créé comme une coopérative ouvrière et que ce passé, s'il est déjà révolu, n'est pas indifférent à la culture de cette entreprise dont le président Xavier Fontanet vient de recevoir de notre académie le prix Olivier Lecerf pour un management humaniste. Mais alors, pourquoi la forme démocratique, considérée comme la seule acceptable pour une organisation politique, ne semble-t-elle pas bien adaptée à l'entreprise ? Selon Gérard Lafay, je cite, « Par sa nature même, l'entreprise est tournée vers l'extérieur, puisqu'elle est destinée à satisfaire d'abord les besoins du marché. » Elle n'a pas le même objet qu'une institution politique destinée essentiellement à satisfaire les besoins des citoyens à l'intérieur de son champ territorial. Fin de citation. Notre défunt confrère Pierre de Calan, grand défenseur de l'entreprise, considère son assimilation à un corps politique comme une idée fausse et dangereuse. Et il rejette notamment l'élection des dirigeants, car il est, je cite, « impossible de les mettre sous la seule dépendance de ceux qui travaillent dans l'entreprise, puisqu'ils ont aussi des responsabilités vis-à-vis d'autres ». Enfin, Alain Chevalier, ancien patron de Moët&Cy, dans une argumentation ingénieuse, décrit l'entreprise comme un lieu où les doctrines organisatrices peuvent s'exercer sans trop de danger et où le pouvoir portant sur un objet spécifique et limité peut s'exercer sans les limites qui s'imposeraient s'il était général comme dans la société politique. Somme toute, l'entreprise est en situation de concurrence, elle doit d'abord être efficace, ce qui suppose une forte unité de direction et est peu compatible avec les contraintes de la démocratie. Inversement, la démocratie, si elle est une forme de gouvernement relativement peu efficace, est la seule acceptable pour une communauté de citoyens libres. On peut effectivement penser à Singapour, ville-État gérée comme une entreprise, avec une remarquable efficacité économique et sociale, mais où le contrôle politique est tel qu'il rend souvent mal à l'aise même les expatriés européens. Ou on peut penser à la pratique de la République romaine, qui pour faire face à un péril extérieur, suspendait la démocratie et recourait à la dictature. Cette conclusion, provisoire, probablement réaliste, ne suffit pourtant pas à épuiser le sujet. Et les aspirations à plus de démocratie dans l'entreprise sont restées présentes, surtout dans notre pays, et notamment en relation avec les événements de mai 68. Le Parti Socialiste Unifié, le PSU des années 70, avec Michel Rocard à sa tête, a popularisé le mythe de l'autogestion yougoslave. Cette expérience a été tentée, à vrai dire, non pas comme une rupture avec le capitalisme privé, mais en opposition au système de la propriété d'État. À partir de 1950 et en plusieurs étapes, la Yougoslavie, qui affirmait son indépendance du bloc soviétique sur le plan idéologique comme sur celui de la politique étrangère, a aussi cassé le système de planification centralisée, ce système qui fixait pour les entreprises d'État des objectifs d'investissement, de production et de prix. Et elle a confié cette responsabilité à l'entreprise elle-même et à des dirigeants choisis par des conseils ouvriers eux-mêmes élus. Après que le PSU ait rejoint le Parti Socialiste au congrès d'Épinay en 1971, l'autogestion fut un des éléments de la campagne électorale infructueuse de François Mitterrand en 1974. Mais en Yougoslavie même, le système s'englua, selon un observateur, je cite, « dans un fouillis quasi inintelligible de textes aussi proliférants qu'inefficaces » et se vit reprocher, je cite encore, « corruption, incompétence, gabegie, irresponsabilité et arbitraire », fin de citation, tandis que se développait parallèlement un secteur capitaliste florissant jusqu'à la chute finale du système communiste. Michel Rocard est cependant resté attaché au concept d'autogestion, au service duquel il enrôlait récemment à son insu Madame Elinor Ostrom, dernier prix Nobel de l'économie et première femme ayant reçu ce prix, pour ses travaux sur la gestion des biens publics. Elle montre en effet que des collectivités, organisations de consommateurs ou d'usagers, pouvaient gérer de manière économiquement optimale des biens communs. Mais nous sommes là plus dans le domaine de l'organisation de la cité que dans celui de l'entreprise. Alors, si la démocratie au sens propre ne semble donc pas appropriée à l'entreprise, ne peut-on cependant souhaiter que les employés aient un certain rôle, non nécessairement prépondérant, au sein de l'entreprise ? C'est en tout cas ce qu'affirme de façon assez platonique le préambule de la Constitution de 1946, repris par notre Constitution actuelle, qui écrit « Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la gestion des entreprises ». Dans la situation actuelle, avec des grandes entreprises globalisées soumises à de multiples contraintes, dont celle des marchés financiers, Les collaborateurs de l'entreprise se sentent souvent très loin des dirigeants et très loin de décisions prises en fonction d'objectifs globaux mal perçus et souvent insuffisamment expliqués. François Dupuis, le sociologue, a parlé d'une fatigue des élites, tandis qu'une chercheuse beaucoup plus radicale évoquait le régime « domestique » entre guillemets de traitement des caissières de magasins, reprenant étrangement le mot de « dictature domestique » utilisé par Tocqueville en son temps. Et il n'y a pas de doute qu'une meilleure compréhension des décisions de l'entreprise, un sentiment d'appartenance et une appropriation de ses objectifs conduisent à une meilleure motivation, à une plus grande contribution au progrès et à l'innovation, et donc au succès de l'entreprise. La plupart des chefs d'entreprise, en tout cas les plus éclairés, sont conscients de la nécessité d'une implication positive du personnel. Depuis les années 70, à la suite des expériences japonaises, nombreuses ont été les initiatives, certes de qualité, groupes d'expression, etc., qui visaient à associer plus étroitement les employés de base au fonctionnement de leurs unités. Et sans doute, beaucoup de ces initiatives sont entrées dans les pratiques des entreprises, même si on en parle beaucoup moins maintenant. Mais leur consécration institutionnelle est beaucoup plus difficile. Dans les années 1960, ces questions ont été évoquées sous le vocable de la réforme de l'entreprise, titre du rapport établi par François Bloch-Lenné en 1963 et repris par le rapport Sudreau en 1975. Notant la coexistence spécifiquement française d'entreprises privées ou publiques, de statuts juridiques très différents, mais de réalités organisationnelles voisines, Bloch-Lenné veut répondre à, je cite, « une aspiration à participer à la vie des entreprises ». Il estime que sans toucher à l'unité de direction, celle-ci peut être placée sous ce qu'il appelle un contrôle plural. Alors, il admet tout de même que pour les entreprises familiales, le despotisme éclairé, n'est-ce pas Yvan, soit dans l'ordre des choses. Mais pour les grandes entreprises, il propose que les dirigeants soient responsables devant un conseil de surveillance comportant des représentants du personnel, du capital et du plan, sous le contrôle d'une magistrature économique et sociale chargée d'arbitrer les conflits éventuels. Cette idée nous paraît aujourd'hui d'un autre temps. Mais 12 ans plus tard, le rapport Sudreau propose des changements plus limités, notamment, je cite, « reconnaître une faculté d'expression à chaque salarié », fin de citation, et ouvre une voie nouvelle, la co-surveillance, avec un tiers des membres du conseil d'administration ou de surveillance élus par les salariés. On est là assez près du système allemand de la co-détermination, de la Mitbestimmung, instauré en Allemagne dès la fin du 19e siècle et généralisé après la Deuxième Guerre mondiale, qui comporte obligatoirement entre un tiers et la moitié des membres du conseil de surveillance représentant les salariés allemands. D'ailleurs, même en France, des représentants du comité d'entreprise siègent obligatoirement au conseil d'administration des sociétés avec voix consultative. Dans les entreprises qui ont appartenu à l'État et ont été privatisées, des administrateurs de plein exercice sont élus par les salariés. Et dans beaucoup d'entreprises qui ont développé des plans d'actionnariat du personnel, des administrateurs sont désignés par les salariés actionnaires. Ceci paraît, à vrai dire, à un observateur extérieur, une idée logique et une bonne façon d'associer les salariés. Et il est difficile de trouver un chef d'entreprise, que ce soit en France ou en Allemagne, pour critiquer publiquement ces différents systèmes. En privé, cependant, ils vous confieront que les effets positifs en sont très limités et les effets pervers nombreux. Mon expérience personnelle, tant dans les conseils de surveillance allemands que dans des conseils français, est que les représentants du personnel ont, d'une façon assez légitime, pour préoccupation principale l'emploi, et secondairement les salaires, qui ne sont en général pas discutés en conseil. Ils reçoivent évidemment beaucoup d'informations sur l'entreprise, mais sont tenus à la confidentialité pour ce qui n'est pas public, et ne peuvent donc guère aider à la diffusion, à l'explication. Ils ne peuvent non plus donner sur les questions les plus importantes un avis représentatif qui nécessiterait une discussion avec leur mandant de la politique de l'entreprise, discussion qui leur est impossible. Inversement, les administrateurs extérieurs, eux, sont beaucoup plus timides dans leurs interventions en raison de la présence des membres du personnel. Même si ces derniers respectent dans la plupart des cas la confidentialité des débats du Conseil, ils ne l'ont pas, je n'ai pas eu historiquement beaucoup de problèmes de ce point de vue-là. La discussion d'une idée potentiellement explosive devient difficile, de même qu'une critique un peu vive des dirigeants. Et la moindre liberté de ton des conseils français par rapport aux conseils américains tient en partie, pas uniquement, à ce mélange des genres dans les conseils. Alors en Allemagne, les représentants des actionnaires ont généralement une réunion préalable séparée, qui tomberait probablement en France sous le coup du délit d'entrave, et où les vrais problèmes sont discutés librement entre représentants et actionnaires. Et la réunion du conseil de surveillance devient facilement un cérémonial assez formel. Cependant, en Allemagne, la participation des salariés n'est pas neutre, ni totalement négative. Selon mon expérience, la recherche naturelle d'un consensus ou le désir d'éviter les conflits conduit souvent à différer les décisions désagréables, en tout cas tant que la situation n'est pas vraiment grave. Par contre, quand elle le devient, les syndicats allemands, mieux informés d'une situation qu'ils ne peuvent contester, puisqu'il leur en est rendu compte régulièrement, sont davantage prêts à trouver des solutions, même au prix de sacrifices, plutôt que de se cantonner, comme les syndicats français, à une posture de contestation. Alors le rapport Sudreau, quelques années plus tard, prône également un renforcement de l'expression des salariés et du dialogue dans l'entreprise. Les lois Auroux sont venues, en 1982, obliger les entreprises à engager chaque année un dialogue sur un certain nombre de sujets. De même, de nombreuses procédures obligent à des consultations du comité d'entreprise. À voir ces dispositifs, on pourrait penser qu'il existe une véritable concertation au sein des entreprises sur tous les sujets, et que le problème de la participation des salariés aux décisions ne se pose plus. Au contraire, l'expérience, malheureusement, suggère que dès lors que le dialogue, au lieu d'être naturel, volontaire et informel, devient obligatoire, encadré par des règles et soumis à des sanctions, il tend à devenir une formalité légale pour les uns, une occasion de gesticulation pour les autres, et perd beaucoup de sa richesse. Le temps que j'ai encore personnellement connu, où un chef d'entreprise présidait le comité d'entreprise sans avocat, libre de sa spontanéité, même lorsqu'elle l'écartait du politiquement correct, est révolu. On a encore, mais pour combien de temps, des discussions riches et informelles dans les comités européens de groupe, qui sont eux beaucoup moins soumis au formalisme légal. Alors après cette revue un peu négative et décourageante, que reste-t-il alors de l'aspiration à la démocratie, ou en tout cas à la participation, qui est naturelle dans l'entreprise comme ailleurs ? La réalité que j'ai déjà mentionnée, c'est qu'une entreprise ne marche pas de façon optimale si ses collaborateurs n'adhèrent pas à son action, et qu'un chef d'entreprise peut difficilement réussir dans la durée si sa légitimité n'est pas reconnue et s'il est incompris, méprisé ou haï par ses troupes. Cette réalité, valable pour tout groupe humain, n'implique pas un fonctionnement à proprement parler démocratique, où la majorité acquiescerait formellement à chaque décision, mais oblige les patrons responsables à se préoccuper des réactions du terrain. Ainsi, beaucoup d'entreprises, et Lafarge a toujours été de celles-là, procèdent régulièrement à des enquêtes d'opinion auprès de leur personnel, à tous les niveaux et dans tous les pays, pour apprécier la façon dont le management est compris et soutenu. Dans les entreprises que je connais et qui sont gérées par des patrons que je qualifierais de responsables, les résultats de ces enquêtes sont généralement bien meilleurs qu'on pourrait le croire, même dans les périodes difficiles. Alors que l'opinion est souvent très défavorable à l'action des entreprises en général, les collaborateurs sont le plus souvent satisfaits, ou en tout cas positifs, sur la gestion de leur propre entreprise. Cette utilisation des enquêtes rappelle celle des sondages en politique, mais avec la grande différence qu'elle ne se situe pas dans la perspective d'une élection des dirigeants. Et les réponses des collaborateurs seraient peut-être différentes si le patron devait être élu par eux. Mais le patron est élu par les administrateurs, eux-mêmes élus par les actionnaires. Alors y a-t-il là un domaine, le domaine, où se situe la démocratie dans l'entreprise ? Historiquement, la question d'une démocratie actionnariale commence à se poser quand la société anonyme se substitue progressivement à la société en nom collectif ou la société en commandite comme mode normal d'organisation d'une entreprise. Comment organiser les rapports de l'entreprise et de sa direction avec une masse d'actionnaires nombreux dont aucun ne détient un pourcentage significatif du capital ? La réponse va dépendre des législations des différents pays et je n'ai pas le temps ici d'analyser toutes les situations. Je voudrais évoquer seulement deux modèles assez caractéristiques, le modèle français et un peu le modèle américain. En France, la loi de 1867 organise dans l'entreprise une démocratie représentative répondant en apparence aux mêmes principes que la démocratie politique. La souveraineté populaire y est incarnée par l'Assemblée générale des actionnaires, qui approuve les statuts, c'est-à-dire la constitution de la société, et qui en élit le conseil d'administration, lequel désigne lui-même les dirigeants. Les actionnaires ont même plus de pouvoir que les électeurs politiques, puisqu'ils peuvent toujours révoquer les administrateurs en Assemblée générale à la majorité simple, même si la question n'était pas à l'ordre du jour de l'Assemblée. Mais dans la pratique, la situation sera bien différente. La différence principale entre l'entreprise et une circonscription politique est l'absence de parti politique ou de corps intermédiaire qui puisse donner aux actionnaires un choix entre plusieurs options de management. Sans cette possibilité de choix et avec des propositions ou des candidatures émanant pratiquement toujours du Conseil lui-même, le rôle des actionnaires se réduit en fait à une ratification quasi automatique, sauf dans des circonstances exceptionnelles. En France, jusque dans les années 80, on a connu des assemblées d'actionnaires où l'on peinait à obtenir un taux de représentation de 20%, l'essentiel étant d'ailleurs constitué par des pouvoirs en blanc donnés au président, avec une approbation des résolutions par 98% des voix. Au sein du Conseil d'administration, la contestation n'était pas davantage présente. Un ancien dirigeant d'une grande entreprise industrielle, devenu administrateur de Lafarge, me déclarait en 1975 « Un administrateur est là pour fermer sa gueule et soutenir le président ». Déjà à l'époque, je dois dire, le rôle et le style des conseils américains étaient très différents, comme on le verra plus tard. Est-ce à dire que les actionnaires, à l'époque, n'avaient aucune prise sur le management d'entreprise ? Pas du tout, car ils conservaient le pouvoir de voter avec leurs pieds, c'est-à-dire de vendre leurs actions s'ils n'appréciaient pas la gestion d'entreprise. Et c'était la doctrine affichée des investisseurs professionnels. Ne pas chercher à intervenir dans la gestion d'entreprise, mais ne pas investir s'ils en étaient mécontents. Ceci coïncidait d'ailleurs avec une période où les théoriciens du management avaient consacré le règne des managers professionnels, considéré comme le moyen le plus rationnel de gérer une grande entreprise dans la durée et d'assurer un équilibre optimal entre les intérêts des différentes parties prenantes à l'entreprise, actionnaires, mais aussi clients, employés ou collectivités environnantes. L'excellent ouvrage de Pierre-Yves Gomès et Harry Corrine, qui lui s'appelle pas la démocratie dans l'entreprise, mais l'entreprise dans la démocratie, décrit très bien cette apparition du pouvoir managérial qui correspondra au développement des théories du management, à l'apparition des business schools et à la grande époque de General Motors avec Alfred Sloan. Mais l'attitude des actionnaires va changer dans les années 80, avec la croissance de la taille des fonds d'investissement et la compétition entre eux. Les plus grands fonds se sont en effet rendus compte qu'ils ne pouvaient pas, en pratique, éviter de posséder les actions des plus grandes sociétés de la cote de leur pays. Donc l'idée de voter avec les pieds n'était plus réaliste, et il leur fallait donc, bien, pour défendre leurs intérêts, se préoccuper de la façon dont ces sociétés étaient gérées. À la même époque, l'industrie américaine, exemplaire pour les progrès de productivité dans les années 50-60, s'est quelque peu endormie sur sa position mondiale dominante, avec des syndicats forts qui s'opposent au changement et un management qui trouve commode d'accepter le compromis avec les syndicats. Les économistes et certains actionnaires s'inquiètent de cette situation, contestent la théorie managériale de la rationalité technocratique et de l'équilibre et veulent la remplacer par celle du manager agent des actionnaires. Ce qu'on appelle la théorie de l'agence postule que les gestionnaires de l'entreprise doivent gérer celle-ci uniquement dans l'intérêt des actionnaires, ses propriétaires légitimes, et non pour un intérêt de l'entreprise, entre guillemets, correspondant à l'intérêt social dans le langage juridique français, qui serait mal défini et qui camouflerait en fait les intérêts propres des managers. Pour les faire changer de point de vue, il faut les intéresser davantage au point de vue des actionnaires. De cet objectif découlera notamment la mise en place des stock options, moyen de les rendre sensibles, et on le verra plus tard, parfois trop sensibles, à l'évolution du cours de l'action. Et de fait, l'industrie américaine sera brusquement réveillée dans les années 80, à la fois par la concurrence japonaise, notamment dans le secteur de l'automobile, par l'appel à la rénovation et la concurrence de Ronald Reagan, et par des actionnaires activistes qui critiquent et attaquent le management en place. C'est l'époque des offres publiques d'achat hostiles faites sur de grandes sociétés par des fonds d'investissement privés, ce qu'on appelle « private equity », qui culmina par celle lancée par KKR, Kravis, Kohlberg et Roberts, sur la société de produits d'alimentation et de tabac RGR Nabisco, affaire qui fut très bien décrite par le livre « Barbarians at the Gate », les barbares à la porte. Le contexte devint ainsi rapidement beaucoup moins favorable pour le management des entreprises et la question de la gouvernance, ou plutôt du gouvernement d'entreprise, s'est trouvée posée. Mais cette évolution se produit d'abord dans un cadre juridique américain sur lequel il faut dire quelques mots car il est très différent du cadre français. Aux États-Unis, le régime juridique des sociétés est du domaine des États, ce qui a produit historiquement une certaine concurrence entre eux pour développer le cadre à la fois le plus prévisible et le plus favorable pour l'entreprise. C'est le Delaware qui a la position dominante et le plus grand nombre de sociétés sont incorporées au Delaware. Le Delaware leur donne beaucoup de liberté dans la définition de leur statut et la plupart des entreprises ont adopté un système qui concentre le pouvoir au profit du conseil d'administration. Le conseil d'administration d'une société américaine peut prendre pratiquement toutes les décisions, même les plus importantes, comme une acquisition majeure, une augmentation de capital ou même la modification des statuts, sans vote des actionnaires. Non seulement les actionnaires ne peuvent pas révoquer les administrateurs, mais ils ne peuvent en général pas proposer de nouveaux administrateurs sans l'accord du conseil. Et si leur nomination nécessite bien un vote des actionnaires, sont élus ceux qui recueillent le plus grand nombre de voix, même si plus de la moitié des actionnaires ont voté contre eux ou n'ont pas voté pour eux. La contrepartie de ce système est une responsabilité beaucoup plus forte des administrateurs qui a été consacrée par la jurisprudence au nom de leur fiduciary duty, leur devoir fiduciaire, vis-à-vis des actionnaires. Cette responsabilité est fortement ressentie en pratique et elle ne leur permet pas d'exercer leur pouvoir d'une façon qui léserait les actionnaires. Mais elle leur laisse tout de même une assez grande latitude d'appréciation au nom du business judgment dès lors qu'ils ont préparé et motivé sérieusement leur décision. La question de la démocratie actionnariale se pose donc de façon assez différente en France, où les pouvoirs des actionnaires sont déjà très étendus, et aux États-Unis. En France, il s'agit d'abord de savoir si les conseils d'administration peuvent être suffisamment indépendants et actifs pour exercer un véritable contrôle sur les dirigeants. Aux États-Unis, il s'agit surtout de déterminer quel contrôle les actionnaires auront sur le conseil d'administration. Malgré tout, les questions pratiques en débat sont à peu près les mêmes, avec notamment les conditions de fixation des rémunérations. Sur ce point, les Anglais ont trouvé une solution intermédiaire très britannique qui soumet non pas les décisions de rémunération, mais la politique de rémunération à un vote des actionnaires, mais dont la valeur est seulement consultative. Mais finalement, la question de la démocratie actionnariale de l'entreprise n'est pas très différente de celle de la démocratie vis-à-vis de ses employés que nous avons déjà discuté. Certes, on peut dire que les actionnaires sont les propriétaires juridiques de l'entreprise, même si en droit strict, ils ne sont propriétaires que de leurs actions et d'un droit aux actifs résiduels à la liquidation de l'entreprise. Mais il n'est pas du tout évident qu'un régime de démocratie directe, où toutes les décisions majeures seraient prises par les actionnaires, serait dans l'intérêt de l'entreprise ou même dans leur propre intérêt. Dans le secteur de matériaux de construction, que je connais mieux que d'autres, il est intéressant de comparer l'évolution des sociétés britanniques à celle des sociétés continentales. Les premières ont été soumises à une forte pression de leurs actionnaires selon la tradition de la cité de Londres. Or, les marchés financiers, et donc beaucoup d'investisseurs, ont des vues souvent changeantes, gouvernées par des modes de court terme, et qui prennent peu en compte les difficultés du gouvernement interne de l'entreprise. À un moment, il faut absolument aller en Asie. Mais 6 mois plus tard, le risque asiatique est considéré comme excessif et pénalisant. De fait, ceux qui veulent suivre au jour le jour les humeurs des marchés ne peuvent dessiner des stratégies cohérentes sur la durée. C'est ainsi que presque toutes les sociétés anglaises de matériaux de construction, qui étaient il y a 30 ans les leaders dans leur secteur, ont disparu après avoir connu des difficultés et en étant rachetées par des entreprises du continent. Alors la consolation pour les actionnaires londoniens, et apparemment ils s'en satisfont très bien, est qu'ils ont su obtenir de l'acquéreur la dernière livre de chair. Londres est en effet la seule place financière où quelques investisseurs clés, en décidant ensemble que le prix offert est insuffisant, peuvent faire échouer une offre, même si aucune autre n'est en vue. J'en fis moi-même la mère expérience en 2000 lors de l'échec de ma première tentative d'acquérir la société Blue Circle. Il me fallut y revenir l'année suivante, heureusement sans devoir payer plus cher. Inversement, il est clair que les dirigeants d'une entreprise ne peuvent la gérer sans se soucier des intérêts et des opinions des actionnaires. Ça ne serait ni légitime, ni efficace, puisque la chute du cours de bourse qui en résulterait priverait à terme l'entreprise de la capacité financière de produire sa stratégie. Le meilleur système me paraît être celui où le conseil d'administration joue un rôle de traducteur ou de tampon entre les réactions des actionnaires et l'entreprise. Il lui faut distinguer ce qui est important de ce qui est accessoire et surtout trouver l'horizon de temps où il sera clair que l'intérêt de l'entreprise tel qu'il le conçoit et celui des actionnaires se rejoindront. Pour atteindre cet objectif, il faut que le conseil ait une certaine indépendance par rapport aux actionnaires, tout en tirant sa légitimité de leur soutien. Or, le système démocratique théoriquement mis en place par la loi était resté, comme on l'a vu, largement théorique, à cause d'actionnaires qui ne votaient pas et de l'absence de corps intermédiaires, capables, comme les partis dans la démocratie politique, d'orienter les votes sur des programmes, dans des directions différentes, qui seraient mises en concurrence les unes avec les autres. Actuellement, les investisseurs sont de plus en plus obligés par leurs autorités de contrôle de voter aux assemblées générales. C'est pour eux une contrainte lourde, car ils ne peuvent souvent être experts dans les problèmes de gouvernance des centaines d'entreprises dans lesquelles ils peuvent être amenés à investir. Des sociétés spécialisées se sont donc créées pour conseiller les investisseurs sur les votes à émettre, en anglais les « proxy advisors ». Ces sociétés se concentrent pour l'instant sur le respect de règles de gouvernance assez formelles. Par exemple, est-ce que vos administrateurs respectent les critères d'indépendance ? Mais on peut imaginer une évolution où elle ferait porter le débat sur le détail de la stratégie ou des politiques de l'entreprise, obligeant à des campagnes électorales qui opposeraient les partisans de la croissance à ceux de la rentabilité ou les adeptes de la diversification à ceux de la focalisation. Une telle évolution rendrait l'entreprise beaucoup moins manœuvrante au sens nautique du terme et poserait des problèmes redoutables. Peut-être le résultat de l'aspiration à la démocratie dans les sociétés à actionnariat dispersé sera-t-il alors de favoriser les entreprises à actionnariat concentré qui, elles, ne souffriraient pas de ces difficultés. L'avenir dira si mon inquiétude est vraiment justifiée et si trop de démocratie peut finalement détruire le modèle de société auquel on veut l'appliquer. En conclusion, l'entreprise ne me semble pas être, ni vis-à-vis de ses salariés, ni même de ses actionnaires, un champ propice au développement d'une véritable démocratie. Entité soumise à des pressions diverses et contradictoires, dépendant de la capacité et du jugement de ses équipes, soumise à la concurrence et aux décisions quotidiennes de ses clients, représentant souvent un enjeu que les pouvoirs publics des différents pays où elle travaille ne peuvent ignorer, elle a besoin de continuité, mais aussi d'audace, d'innovation, de communication, mais aussi de confidentialité, de rentabilité, mais aussi de responsabilité sociale. Cet équilibre ne serait pas bien assuré par une direction soumise au même style de contraintes que les leaders politiques et aux aléas des changements de majorité que ceux-ci subissent. Mais ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est ce que je dis des entreprises et peut-être également vrai de nos pays, qui eux aussi sont de plus en plus soumis aux contraintes de la concurrence extérieure et où l'acceptation interne n'est plus qu'un des éléments du succès. Alors peut-être que les difficultés qui limitent l'application des principes démocratiques dans l'entreprise sont aussi le reflet des défis de plus en plus difficiles que connaît l'application de ces mêmes principes dans le champ de la démocratie politique. Merci.
Vous venez d'entendre la retransmission de la séance de l'Académie des sciences morales et politiques du 8 février 2010, au cours de laquelle Bertrand Collomb, membre de la section Économie politique, statistique et finance de l'Académie, a prononcé une communication intitulée « La démocratie dans l'entreprise ». Retrouvez la plupart des séances de l'Académie des sciences morales et politiques consacrées au thème de la démocratie sur notre radio internet Canal Académie. La thématique annuelle pour 2010 a été choisie par Jean Ménard, président de l'Académie, membre de la section philosophie. Et il s'agit de la démocratie.